France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. La philosophie a-t-elle quelque chose à dire d'intéressant sur la sexualité? Pour le dire plus crûment, de la position du missionnaire au BDSM, peut-on penser le cul? Philosophiquement, évidemment, la philosophie étend ses domaines à tous les sujets qui nous affectent, mais peut-être nous aider à mieux faire l'amour, à mieux comprendre cet obscur objet du désir, cette libido au sens freudien qui nous rend vivants. De Platon à Michel Foucault, en passant par Épicure, Descartes ou Judith Butler, qu'est-ce que les philosophes ont d'intéressant à dire sur ce sujet? Le sexe qui interroge la norme, le plaisir, le désir, le corps, l'altérité. On se demandera également ce que la philosophie peut nous apprendre sur certaines positions comme le 69, la sodomie ou la fellation. Évidemment, les plus chastes oreilles et les plus jeunes pourront faire autre chose à ce moment-là. Et puis avec le mensuel Le Philosophie Magazine, on se demandera pourquoi le sexe, qui n'a jamais été aussi présent dans nos vies, eh bien nous le pratiquons assez peu, relativement peu par rapport à il y a une décennie. Nos invités attendent vos questions et vos témoignages au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 en laissant messages et notes vocales sur l'appli France Inter, sans oublier la page Facebook de l'émission. Bonjour Marie-Laure Sonnenschein.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef de Femmes Actuelles, quel est le menu de vos questions pertinentes?
Trop d'injonctions, trop de pression, de marchandisation via les applis et au final une envie qui s'émousse. Comment redonner sa place au désir à l'imprévu, sans obligation de résultat, sans suivre un scénario préconçu, tout un art bien vivant en somme.
Bonjour Éric Libiot.
Bonjour Ali.
Quand vous n'êtes pas rédacteur en chef d'Écran Total, vous officiez dans cette émission. Je ne vous demande pas si vous êtes du matin ou du soir, vous nous avez répondu hors antenne. Quel est le menu?
Ça vous a pas plu?
Quel est le menu de vos choses presque vues?
Eh bien aujourd'hui je vais parler de zététique et de Lavoisier.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Je dirais qu'il y a un soulagement qui peut arriver par ces phases d'intermède, ces phases de rupture. Moi, je vais consacrer un chapitre, par exemple, à l'immobilité.
Oui.
L'immobilité, je trouve que c'est très intéressant, surtout quand, disons, l'excitation perdure. Ça veut dire quand là, on éprouve, quand on est un homme, une sorte de, bon, j'appelle ça la bandaison transcendantale, c'est-à-dire quelque chose où, au fond, parce que ce qui est transcendantal pour Kant, c'est ce qui n'a pas besoin de l'expérience, c'est-à-dire du contact avec l'expérience pour être là et pour exister. Et donc, effectivement, la bandaison transcendantale, il n'y a plus aucune forme de stimulation et vous continuez à être excité, ça veut dire que c'est une sorte de bandaison dans le vide ou de bandaison métaphysique. Alors, l'immobilité, c'est magique pour se parler et pour éprouver ce genre de choses.
La bandaison transcendantale, selon Alexandre Lacroix, dans Grand Bien vous fasse, le 7 juin 2022. Bonjour Cédric Angelbert.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de Philosophie Magazine. On vient d'écouter votre patron avec à la une, ce mois-ci, sexe. Où est-ce que ça coince? Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour Ali Rébéi.
Experte éclairée de cette émission, vous êtes normalienne, agrégée de philosophie, grande spécialiste de la philosophie du XVIIe siècle, et vous venez de publier chez Stock « La splendeur du monde, aller à la rencontre de la beauté » que nous évoquerons bientôt dans cette émission. Bonjour Francis Métivier.
Bonjour Ali.
Vous êtes philosophe, musicien, conférencier, professeur au lycée, chargé de cours à l'université de Tours, et vous avez notamment publié « Sex and Philo », hélas, introuvable aujourd'hui, que vous aviez écrit avec Ovidie. Oui. Alors, Laurence de Villers, les philosophes depuis l'Antiquité se sont-ils vraiment intéressés à la question de la sexualité? Ont-ils pris à bras le corps les interrogations sur le sexe que la littérature, la psychologie ou la psychanalyse ne cessent d'interroger dans leurs domaines respectifs?
Alors, la réponse spontanément serait non. Et avec un étonnement, c'est que la philosophie a beaucoup pensé le corps, et ce qui peut se rattacher au corps, même pour dire que ça pose problème dans son union avec l'esprit ou avec ce qui serait purement spirituel comme l'âme. Mais en réalité, quand on regarde de près et qu'on doit citer les philosophes qui ont pensé la sexualité, qui ont même eu des concepts, qui ont conceptualisé la sexualité, puisque le travail de la philosophie s'est conceptualisé, ben on a beaucoup de mal. Je croisais Adèle Vendrette dans le couloir et je lui ai posé la question. Qui citeriez-vous comme
philosophe de formation?
Philosophe de formation, votre patronne, puisque vous parlez de hiérarchie, Ali. Est-ce que vous pouvez me citer des philosophes qui ont parlé de la sexualité? Ben, je crois qu'on est tombé d'accord, elle et moi, il y en a Pas tant que ça. Alors, il y a des philosophes, c'est intéressant, qui sont à la périphérie de cette question. Vous citiez Descartes dans votre énoncé. Ben oui, Descartes, c'est celui qui a conceptualisé le coup de foudre, par exemple. Il l'a expliqué. Mais c'est pas ça, la sexualité. Lévinas la caresse, mais est-ce que c'est la sexualité ? Donc, la question, c'est est-ce que penser le corps empêche de penser la sexualité ? Ça paraît paradoxal, mais peut-être. Et est-ce que la sexualité faisant partie de l'intime, est-ce que le philosophe a le droit de venir dans la chambre ?
Alors, les philosophes se sont peut-être surtout intéressés à la question du désir, chez Platon, par exemple. Mais quand elle traite de sexualité, la philosophie le fait assez souvent sur le mode moral du jugement de valeur.
Oui, c'est surprenant que la philosophie qui a très tôt essayé de parler des passions, par exemple, sur un ton qui ne soit pas moralisateur, c'est pas bien d'eux d'être ambitieux, d'être amoureux, et bien sur la sexualité, son discours le plus souvent est moralisateur, soit parce qu'elle va prôner une tempérance, soit parce qu'elle va construire quelque chose autour de la sexualité qui, à mon sens, l'efface, par exemple, le mythe de l'âme sœur ou de l'androgyne chez Platon. Et puis, alors Alice, ça va peut-être vous surprendre, mais je crois que le grand malentendu de la sexualité, c'est de confondre sexe et désir. Et ce n'est pas du tout la même chose. Pour le dire vite, mais peut-être que vous me demanderez d'expliquer quelque chose qui semble contre-intuitif, on peut avoir du désir et du désir très fort, physique, sans sexualité. Et il peut y avoir de la sexualité sans aucun désir. Et je crois que le malentendu est là, c'est-à-dire qu'on va demander à la sexualité de nourrir, de ressusciter, de susciter le désir, mais c'est pas son objet, c'est pas la même chose. Et on va croire qu'on va nourrir notre désir avec la sexualité. Ben je crois que c'est le grand malentendu.
Votre point de vue, Francis Métivier ?
Alors, mon point de vue, c'est que le sexe, que je définis essentiellement comme un ensemble de pratiques concrètes, physiques, mais aussi mentales, le sexe, c'est un des grands tabous de la philosophie. Et ce grand tabou de la philosophie est devenu aussi de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, le grand tabou du sens commun et de la société. Tabou parce que, effectivement, chez certains philosophes de l'Antiquité jusqu'au 19e, le sexe est frappé par l'interdit, en fait. C'est lié au corps, à quelque chose d'assez sale. Et à la même époque, depuis l'Antiquité jusqu'au 19e, les philosophes qui voudraient parler du sexe en parlent de façon, finalement, tout à fait sous-entendue. Platon aurait pu, dans Le Banquet, notamment, dans différents passages, aurait pu approfondir la question. Il l'effleure à peine, il y a des ellipses, hein. Dans la naissance d'Eros, ses parents Peña et Poros, Peña se met à côté de Poros, et la ligne d'après, Eros est né. Et on demande pas une description pornographique de ce qui s'est passé, mais au moins une réflexion sur le sexe à ce moment-là. Chez Nietzsche, hein, aussi, on parle d'instinct. Est-ce que l'instinct est sexuel ? Il y a un grand manque de précision chez les philosophes qui auraient pu en parler, qui s'étaient donné l'occasion au plan argumentatif d'en parler, et qui finalement ont laissé passer leur chance. Et ce tabou, parler de sexe, ou parler du sexe, il est en partie levé au XXe siècle avec Foucault, qui fait ses quatre tomes de l'histoire de la sexualité. Alors, avec des pincettes, on va dire, c'est-à-dire sous couvert d'auteurs de l'Antiquité, notamment. Mais je crois que l'œuvre de Foucault a permis de dire qu'on pouvait philosophiquement parler de sexe, approfondir le sujet. Et c'est pour ça que, depuis 10-15 ans, je pense notamment à Alexandre Lacroix, effectivement, il y a des philosophes qui osent aborder la question. Mais on sent bien que ça reste quand même en philosophie et dans la société, ça reste quand même un sujet très tabou dont pourtant, il faudrait ne pas parler finalement.
Pourtant, Francis Métivier, le sexe, la sexualité devraient être des matières premières de la philosophie, car elle interroge le corps, l'altérité, le plaisir, la douleur, la norme, les interdits, la transgression, la frustration.
Tout à fait, mais le problème, moi je suis professeur de philosophie, si vous regardez le programme de philosophie, les notions officielles que nous devons traiter, c'est le devoir, la raison, la science, le travail, la technique, c'est-à-dire des notions qui sont pas forcément marrantes. Le désir n'est plus dans le programme de philosophie, le corps n'a jamais été dans le programme de philosophie, Le plaisir, le corps, l'amour. L'amour, moi, c'est le corps est un thème que j'avais proposé en faculté de médecine et on m'a dit non, c'est trop en faculté de médecine. Donc, officiellement, on est censé faire des notions qui sont alors très utiles, très pertinentes, qu'il faut faire, hein, la raison, la technique, mais tout ce qui relève du corps et du plaisir, c'est officiellement, ça fait pas partie des programmes et je crois bien même qu'il faudrait ne pas en parler.
Laurence Villers.
Mais ce qui est surprenant, c'est que on parle de la sexualité comme tabou. Alors tabou dans les programmes de philosophie, c'est peut-être pas l'essentiel, mais c'est parlant. Mais en même temps, il y a une sorte de pansexualité, c'est-à-dire la sexualité est partout. Je crois que maintenant, à l'âge que j'ai, je peux dire que j'ai pas connu ça plus jeune. C'est-à-dire que c'était vraiment tabou au sens où on en parlait beaucoup moins. Ce qui est frappant, c'est qu'à la fois, ça reste tabou, effectivement, et la philosophie n'échappe pas, et en même temps, c'est omniprésent. Comment on explique les deux ?
Cédric Angelbert, de Philosophie Magazine.
Oui, effectivement, nous, c'est le constat duquel on est parti pour faire ce numéro de Philosophie Magazine. C'est un paradoxe, finalement. La sexualité est partout. Alors, sur le mode un peu... on peut le regretter, les écrans, la sexualité pornographique, etc. Mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est aussi les chroniques, les tribunes sur la sexualité, Maya Mazoret...
Cette émission...
On sent bien qu'effectivement, la sexualité est partout. Et un certain sondage, et puis certaines études américaines notamment, montrent que finalement, on pratique beaucoup moins... notamment les jeunes, il y a une forme de récession sexuelle, comme le disait le magazine The Atlantic aux États-Unis. Et c'est de ce constat-là, de ce paradoxe-là, qu'on est parti pour essayer de l'expliquer. On a essayé de trouver des raisons.
Et pour expliquer notre baisse du désir et de la sexualité, Alexandre Lacroix pointe du doigt l'abondance. Cette question intéressante d'Alexandre Lacroix, je vous la soumets, je le cite. Si vous voulez dégoûter quelqu'un de manger, quelle est la meilleure stratégie ? Le sermonner sur les bienfaits de la sobriété, chercher à le convaincre à moins aimer la nourriture, ou bien lui mettre sous les yeux tous les jours un buffet surchargé de plats gras et sucrés. N'est-ce pas le trop-plein qui fait passer l'appétit bien plus que la privation ?
Alors oui, ça c'est l'explication finale. Juste, il y a deux petites étapes avant qui sont quand même des explications plus matérielles, sociologiques. La première serait une explication progressiste finalement, où on aurait acquis plus de liberté, notamment les femmes, et mécaniquement, s'il faut que les désirs s'accordent, peut-être qu'on pratique un petit peu moins. La deuxième explication... Ce serait une explication plus sociologique, marxiste, montrant que finalement les jeunes ont des conditions de vie qui sont moins bonnes, qu'ils partent plus tard de chez leurs parents, qu'ils se mettent en couple aussi plus tard. Déjà, c'est des raisons qui pourraient expliquer une baisse tendancielle du désir ou du rapport sexuel. L'autre explication, plus philosophique, celle d'Alexandre Lacroix, que propose Alexandre Lacroix, le directeur de Philosophie Magazine, directeur de la rédaction, c'est que finalement, il y aurait une espèce de censure par l'excès où on nous présenterait tellement de sollicitations qu'on aurait, on serait dégoûté de tout. Et il propose, c'était un peu l'objet des petits épisodes de son que vous montriez, que vous faisiez écouter, qu'on pourrait peut-être retrouver des façons d'apprendre à faire l'amour, c'était le titre de son livre, et notamment en se dégageant de ce qu'il appelle le script sexuel, enfin ce qui est l'expression qu'il reprend de script sexuel.
Laurence Villers.
Alors, écoutez, moi, je suis à contre-courant parce que je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Et je ne parlerai pas du tout de récession sexuelle. Je pense qu'on est dans un nouveau paradigme et que la libération sexuelle qui, en fait, a eu lieu et en même temps a été suivie de déception, parce que la libération sexuelle n'a sans doute pas libéré les femmes, par exemple. Je pense que là, moi, je m'en réjouis de ces sondages. Et pas pourquoi ? Parce que, vous l'avez dit, Cédric, mais parce que je pense que on se pose la question maintenant, mais est-ce que j'ai envie ? Et on l'avait oublié, il y avait... c'est pour ça que j'apprécie beaucoup les écrits d'Ovidie. On avait oublié que, par exemple, dans les années 80 ou 90, c'était le sexe obligatoire. On avait l'impression d'être quelqu'un de désirable, de sexy, ce mot atroce, de fréquentable et de libre ou libéré, parce qu'on avait une sexualité trépidante. Et puis, pour les femmes, ça impliquait d'avoir la même sexualité que les hommes. Moi, je me réjouis de voir qu'on pratique moins, parce que ça veut dire sans doute qu'on pratique avec envie de le faire.
Cédric Angelbert.
Alors, effectivement, on ne s'en désole pas du tout, Laurence Desvillers, dans Philosophie Magazine. Au contraire, d'ailleurs, on a interrogé Ovidie, qui a fait sa grève du sexe. Et Oui, donc, enfin, on peut...
Allez-y.
Oui, donc, c'est, enfin, on l'a interrogé, donc c'est vraiment dans l'esprit que finalement, effectivement, c'est un gain de liberté et qu'on peut tout à fait l'analyser comme ça. Il y a également une philosophe, une sociologue qui s'appelle Isabelle Claire, qui montre que finalement, chez les jeunes, ils pratiquent moins, mais c'est aussi parce que le discours s'est déconstruit de ce point de vue-là et qu'ils sont beaucoup plus ouverts sur des nouvelles pratiques et puis le consentement qui est vraiment intégré maintenant chez ces jeunes générations.
Question de Marie-Laure Zonshine, Femme Actuelle.
Oui, pour rester sur cette question, sur ce phénomène de récession sexuelle qu'on évoquait et que dénonce Laurence de Villers, est-ce qu'on est finalement arrivé à une espèce de basculement, enfin, ou de retour à l'équilibre, je ne sais pas. On a eu les générations précédentes, Laurence l'évoquait, avec les amours interdites, standardiser le devoir conjugal, les plus récentes avec la libération sexuelle sous toutes ses formes. Aujourd'hui, effectivement, les notions de consentement, d'affirmation ou pas de ses désirs sont clairement exprimées. Donc finalement, ce phénomène de récession sexuelle qu'on nomme aujourd'hui de cette façon-là, vous le voyez sur un temps long?
Bah, effectivement, c'est ce que montre notamment une philosophe. On parlait tout à l'heure, quels sont les philosophes qui parlent de la sexualité aujourd'hui. Il y en a quand même pléthore, notamment chez les femmes, chez les féministes. Et Camille Froidevaux-Métril en est un exemple. Et elle souligne bien le fait qu'il y a eu une libération sexuelle qui a permis aux femmes de décorréler le fait d'avoir une sexualité, d'avoir des enfants. Ces deux choses-là n'étaient plus liées. C'était un gain au niveau des droits, mais que finalement, sur le corps, sur l'appartenance de leur propre corps, ça n'était pas complètement fait. C'est peut-être la nouvelle révolution à laquelle nous assistons aujourd'hui, c'est-à-dire que les femmes reprennent aussi liberté sur leur propre corps.
Allez, dans un instant, on se demande comment certaines positions sexuelles donnent matière à philosopher, et puis on verra pourquoi Emmanuel Kant, dont on célèbre le 400e anniversaire de la naissance, compare la sexualité au cannibalisme. Ce sera juste après avoir écouté Niagara, pendant que les champs brûlent, une chanson sortie en 1990, 10h22 sur France Inter.
Que les champs brûlent.
Niagara pendant que les champs brûlent.
Va pas trop vite.
Grand bien vous fasse.
Caresse-moi mes zones érogènes.
Ouais.
Ali Rébéi.
Tu sais pas ce que c'est ?
Si.
Sur France Inter.
Oh merde. Eh, ça veut dire quoi, érogène ? Je sais pas.
Qu'est-ce que la philosophie peut nous dire d'intéressant sur la sexualité ? C'est notre thème ce matin avec le mensuel Philosophie Magazine.
Fou, viens ici. Je sens monter en moi un extraordinaire feu dévorant qui se propage dans mes veines et qui me fait brusquement désirer que tu t'approches de moi, que tu caresses mon corps brûlant et me fasses l'amour. Dévaste-moi, prends-moi vite, prends-moi.
Avec plaisir. Oh,
tout de suite.
Oui, oh là là, c'est la panique. Hein.
Conduis-moi à ma couche.
Oui, bien sûr.
Dieu, comme cette passion grandit en moi.
C'est ce qu'il faut, venez.
La passion m'habite.
Oui, voyez-vous l'inconvénient, si on se met dans l'étoile. Asseyez-vous là.
Embrassement.
Oui, Majesté, sur l'or, je vais vous enlever vos housses. Ah, attendez, Majesté, je reviens.
Vous avez peut-être reconnu tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans oser le demander de Woody Allen. Alors Laurence de Villers, je rappelle que vous êtes philosophe. La philosophie peut-elle nous aider à réfléchir une éthique sexuelle ? Nous fêtons le 400e anniversaire de la naissance d'Emmanuel Kant, né en 1724 à Königsberg. Pour Kant, la morale, y compris dans l'activité sexuelle, repose sur le respect de la dignité humaine, c'est-à-dire sur le respect de la loi morale. Kant prescrit, je le cite, de ne jamais appréhender autrui comme un moyen, mais toujours aussi comme une fin. C'est d'une modernité absolue.
D'une modernité absolue et inattendue, parce qu'on ne pense pas spontanément à Kant pour une émission sur France Inter sur la sexualité. Alors pour moi, Kant est indépassable de toute façon. C'est-à-dire qu'il faut commencer par lui. Et sa révolution, la révolution kantienne, c'est d'associer morale ou éthique et liberté. La morale, c'est qu'une affaire de personnes libres. Et nous ne cessons de vivre en jetant par-dessus bord notre liberté. Et donc, nous ne cessons de vivre autrement que comme des personnes. Pas seulement des personnes morales, mais des personnes. Et donc, l'idée de Kant, il y a deux choses. Il y a son affirmation. Alors, c'est dans Leçon d'éthique, si on veut aller voir de près, parce que je vous dis ça, parce que ça paraît surprenant, hein. On parle bien de Kant. Il affirme, l'homme n'a aucune inclination à manger la chair de l'autre, sauf dans la sexualité. Et il va plus loin. La sexualité est un crime de chair. Pourquoi ? Parce que dans la sexualité, j'use de l'autre, je l'utilise, je le réduis à un instrument de mon plaisir. Donc il y a un asservissement de toute façon, il y a une inclination dans la sexualité à voir l'autre, oui, comme un outil, un instrument à mon service. Donc il y a la réduction, non pas seulement de sa personnalité, du fait qu'il est une personne, mais il y a la réduction de son corps. Encore une fois, je pense qu'il faut faire attention en disant il faut que la philosophie réhabilite le corps. Non, parce que je ne suis pas mon corps, je ne suis pas que mon corps. Et donc Kant nous dit qu'il faut faire attention à ce cannibalisme, vous l'avez dit Alice, ce cannibalisme de la sexualité. Alors, sa solution, vous allez trouver peut-être qu'elle est datée, mais en tout cas, elle est conceptuelle. Sa solution, c'est d'introduire du droit. Faut pénaliser le cannibalisme d'une certaine façon, il faut l'encadrer par la loi. Le mariage, par exemple, c'est une tentative pour domestiquer ce cannibalisme. C'est tu peux avoir une relation sexuelle avec moi si je t'y autorise, c'est-à-dire si tu y as droit. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Et sa conclusion, encore une fois, qui est très forte, c'est que sans ce rapport à l'autre comme une personne qui de toute façon m'échappera puisqu'elle est libre, donc comme une personne morale avec qui je dois agir moralement, sans cela, la sexualité, c'est le fait de me réduire à un rôti de porc, dit-il.
Petit pan sur le bec, nous fêtons le 300e anniversaire de la naissance de Kant et non pas le 400e. Cédric Angelbert.
Oui, effectivement, c'est intéressant.
De Philosophie Magazine.
Laurence de Villers soulignait. Alors, on a fait un hors-série sur Kant à Philosophie Magazine en interrogeant Manon Garcia, qui a écrit La conversation des sexes. Et elle souligne exactement la thèse que vous présentez. C'est-à-dire que Kant est peut-être l'instigateur du consentement, en tout cas d'une version contemporaine du consentement.
Francis Métivier, je rappelle que vous êtes philosophe.
Oui, sur Kant, sans vouloir faire un vilain jeu de mots, autrui considéré comme une fin F-I-N, mais aussi comme une fin F-A-I-M, parce que il y a effectivement, je suis d'accord, hein, le Kant lié à l'impératif catégorique moral, mais il y a aussi le Kant qui est celui de l'anthropologie, où Kant parle de sensations liées un peu plus au plaisir. Il définit notamment, alors il parle pas de rapports sexuels ou de fellation, mais enfin, il parle quand même de délectation. Et il y a presque chez lui l'idée d'une source alimentaire de la fellation, une modalité anthropophagique à la fois réelle mais aussi très symbolique. Et ce qui veut dire que Kant lui-même, il est un petit peu à l'image des philosophes et de la société, pris dans une espèce d'ambiguïté, où d'un côté, il faudrait moraliser le sexe, et peut-être même jusqu'à s'en abstenir, et d'un autre côté, on ne peut pas s'empêcher d'en parler, alors pas directement, mais quand même, dans son anthropologie, il parle de délectation à travers des phénomènes très corporels, le contraste des sensations, la nouveauté des sensations, le changement des sensations, et puis il parle même d'un concept qu'il nomme l'intensification jusqu'à l'accomplissement. Dans nos sensations, alors il ne donne pas d'exemple particulier, mais on ne peut pas s'empêcher de penser, par ce concept d'intensification des sensations jusqu'à l'accomplissement, jusqu'au maximum aussi, dit-il, on ne peut pas s'empêcher intérieurement de penser finalement à des pratiques sexuelles.
Laurence de Villers, on retrouve cette utilisation d'autrui pour notre propre plaisir dans notre usage, par exemple, des applications de rencontres, où trop souvent l'autre est chosifié, réifié, pour parler comme les philosophes.
Mais oui, parce que c'est tellement plus facile de réifier ou de chosifier l'autre, c'est-à-dire de le réduire. C'est une réduction ontologique, c'est-à-dire on réduit son être à quelque chose qu'il est, mais qu'il n'est pas seulement. Et alors, sur ce point, Ali, je pense qu'on n'a pas assez distingué, on parle de sexualité, mais on n'a pas assez distingué la sexualité pour les femmes et pour les hommes. Et je crois que là, il y a encore une inégalité qui demeure. Alors, on est passé par différentes crises, d'une certaine façon. Il y a eu une génération où la femme était passive et donc instrument, elle devait faire le devoir conjugal. Et puis, il y a eu la femme qui devait se libérer et qui devait parler de sexe et pratiquer le sexe comme les hommes, années 80-90. Maintenant, moi, je salue le fait qu'on se dit, bah non, la femme peut aussi pratiquer comme elle en a envie, si elle en a envie, et cette envie, elle peut aller jusqu'à l'abstention. C'est pour ça que je pense qu'il est important de décorréler sexe et désir. Mais je crois que le risque pour la femme, qui a toujours été là et qui perdure, c'est de la réduire à un corps. Alors un corps soumis au regard des hommes et à leur sexualité, mais aussi un corps quand la femme pense que l'objectif de sa libération est de se réapproprier son corps. La femme ne doit pas se réapproprier son corps, elle doit se réapproprier elle-même, comme sujet, comme ayant le droit d'exister comme sujet, sans être réduite à son corps.
Cédric Anjalbert.
Alors effectivement, il ne s'agit pas de réduire les femmes à leur corps, bien sûr, mais de montrer que ce sont des corps situés, c'est-à-dire que l'expérience phénoménologique, celle du rapport au monde qu'ont les femmes, ne sont pas exactement celles qu'ont les hommes, et donc c'est ça qu'il faut prendre en compte, donc les règles, la maternité...
Ou l'absence de maternité.
Tout ça sont des questions qui sont quand même liées au corps et liées à une certaine situation de la femme, et par ailleurs, vous le signaliez bien, l'importance aujourd'hui, ça n'est pas de savoir si on fait plus ou moins, si on a plus ou moins de rapports sexuels, mais de savoir s'il y a, comme le dit Manon Garcia, un bon sexe, c'est-à-dire avec une forme de moralité derrière.
Alors Cédric Anjalbert, le viol, c'est l'une des manières les plus perverses, violentes, dégradantes, d'utiliser, de chosifier autrui pour son propre plaisir. Interview très intéressante de la philosophe Susan Bryson dans votre magazine, qui a été violée et laissée pour morte par son agresseur il y a une trentaine d'années. Le viol, explique Susan Bryson, qui l'a brisé physiquement, mais qui a également réduit en pièces certaines de ses convictions philosophiques. Cette agression, ce viol, a aussi remis en question la question du moi qui serait unifié, définissable une bonne fois pour toutes. Elle le dit, elle le raconte très bien dans votre magazine.
Alors attention, un petit préalable, bon c'est évident mais c'est bien de le rappeler quand même, le viol n'est pas une sexualité, donc il s'agit bien d'une violence, d'un abus. Et ensuite, ce que montre bien Susan Bryson, qui est donc philosophe britannique, qui a séjourné en France, qui a été agressée, violée, c'est que après cet événement, elle a eu comme un effondrement de sa personnalité, quelque chose s'est désagrégé et elle s'est retrouvée dépourvue parce qu'elle était philosophe, elle avait pourtant de la ressource réflexive et elle n'a pas trouvé dans le patrimoine de quoi réfléchir à l'expérience qui lui était arrivée. Et elle s'est demandé quelle était la raison. Bon, c'est parce que aussi la philosophie a beaucoup été écrite par les hommes, bien sûr, mais c'est aussi parce qu'il y a là une espèce de zone obscure, de zone d'ombre qu'on mettrait de côté et dont on ne voudrait pas tout à fait parler. Et elle s'en est emparée, elle a écrit un livre qui s'appelle « Après le viol », qui vient de paraître, qui s'intitule aujourd'hui « Et nos cœurs, malgré tout, survivent, se reconstruire après un viol ». Et ce qu'elle montre, c'est que bon, c'est un chemin patient, évidemment, faut mettre des mots sur l'expérience qui s'est produite, mais c'est aussi mettre des mots sur l'expérience des femmes de façon plus générale. Et elle a une très belle formule qui s'appelle « La mémoire projective ». Et ce qu'elle dit est assez violent, mais elle dit que finalement, la question n'est pas de savoir si un jour une femme sera violée, mais quand.
Allez, je signale aux oreilles chastes, aux enfants qui nous écoutent, que nous arrivons à une partie déconseillée au moins de 16 ans. Francis Métivier, j'aimerais qu'on évoque une pratique sexuelle égalitaire, selon vous, qui célèbre l'altérité. C'est le 69. Avec cette pratique, tout le monde fait la même chose. Hein.
Alors, tout le monde, mutandis, comme on dit, toute chose, toute comparaison.
Non, mais Francis Métivier, vous dites que c'est la seule position qui permet une telle réciprocité de donner et de recevoir. Et pour mieux comprendre cette pratique, convoquez Hobbes, qui a publié Le Léviathan, et Rousseau, contrat social.
Voilà, alors, effectivement...
Expliquez-nous.
sur des choses très égalitaires, en tout cas, dans un contexte politique et pas celui de l'état de nature, on pense plus à Rousseau qu'à Hobbes, évidemment. Mais non, effectivement, moi, je me suis un petit peu amusé sur ce sujet très sérieux, à voir, effectivement, quelles étaient les pratiques qui pouvaient... refléter une égalité parce que les positions, la plupart des positions dans la plupart des positions il y en a un qui entre guillemets domine, l'autre qui est plutôt dominé si on veut schématiser et vu de l'extérieur, mais cette pratique, le 69, effectivement me semblait être la pratique la plus égalitaire. Évidemment l'égalité en question est très relative puisqu'il y a, enfin, je peux vous faire de dessins, celui qui est dessus dessous, à gauche, à droite, ça, tout ça peut changer, mais peut changer au fond assez facilement. Alors, l'égalité, elle est intéressante parce qu'elle se fait à deux niveaux. C'est une des pratiques qui peut se faire à hommes et femmes, et puis aussi hommes et femmes et femmes. Donc, l'égalité, elle est également, je vais pas dire qu'elle est sociale, mais effectivement, dans les entre guillemets combinaisons hommes-femmes. Et même personne intersexe, c'est une position que finalement tout le monde peut faire. Donc l'égalité, elle est en un double sens, dans la position elle-même, qui est relativement égalitaire, et puis dans les combinaisons liées au genre, au sexe, au non-genre, au non-sexe. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'en a pas les moyens organiques, peut-être. Mais là, effectivement, tout le monde peut.
Laurence de Villers.
J'ai pas de commentaire spontané. Mais je crois Francis sur parole, pourquoi pas.
Francis Métivier, évoquez une autre position où les femmes reprennent le pouvoir.
Ouais.
C'est la position Andromaque. C'est quand la femme chevauche l'homme dans une sexualité hétérosexuelle. L'Andromaque, expliquez-nous pourquoi c'est un grand renversement de la hiérarchie.
Là, je vais être un peu plus sérieux, bien que le 69 soit quelque chose de sérieux. Moi, la position de l'Andromaque, je l'analyse à partir de la phrase de Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, qui dit que la pénétration masculine envers la femme est un viol, et souvent un viol. Enfin, la première pénétration est un viol toujours. Et moi, à partir de là, je me suis dit comment faire en sorte pour que le premier rapport sexuel, notamment entre un garçon et une fille, ne soit pas un viol. Quand Simone de Beauvoir dit c'est un viol, c'est effectivement alors que souvent le garçon n'a pas conscience de son agressivité, des conséquences violentes de sa pulsion. Et je me suis dit comment faire. Et bon, il y a une position effectivement où l'Andromaque, où la fille, la femme est sur l'homme et a, pour ainsi dire, un meilleur crawl, ou a plus la possibilité d'avoir le contrôle de la satisfaction de ses désirs, de son mouvement, que effectivement dans une autre position comme la levrette ou le missionnaire. Et je pense que, alors je suis tout à fait sérieux, parce que je lisais là l'autre jour le projet de nouveau programme de l'éducation à la sexualité, qui est très bien, mais il y a quand même beaucoup de manques, et je pense qu'il y a une défaillance dans ce programme en termes de... Alors, d'information, c'est pas des informations, mais en termes de questionnement sur qu'est-ce qui dans un rapport sexuel pourrait enlever un peu de maladresse, un peu de violence, quelles sont les pratiques qui sont plus propices à faire en sorte que la première relation sexuelle, comme le dit Simone de Beauvoir, ne soit pas justement un viol.
Laurence de Villers a envie de vous répondre.
Oui, parce que alors là, je suis pas d'accord, parce que on a souvent pensé l'émancipation des femmes par un renversement, et je pense que c'est une erreur, c'est-à-dire que là où la femme était soumise, on a voulu la voir conquérante, Amazon, etc. Et je crois que cette idée que telle position serait plus un dépassement de la soumission féminine parce que la femme prendrait le contrôle, etc. Je crois que c'est une erreur. Parce que c'est une façon d'héroïser la femme et de la masculiniser d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'elle doit être... elle doit avoir une sexualité comme un homme. Et c'était la même erreur dans les Working Girls des années 80, où en fait les femmes devaient se grimer en homme. Ben, je crois qu'une sexualité féminine qui passerait par le fait que les femmes se comportent comme des hommes, ou se griment en hommes, ou sont soi-disant héroïques, je crois que ça fonctionne pas. En revanche, l'éducation à la conscience de la violence et de l'agressivité, majoritairement quand même encore masculine, oui, absolument.
Réponse, Francis Métivier.
Oui, ce que je veux dire, c'est un point de détail, mais qui est important, c'est que c'est une position où, effectivement, quand la jeune fille perd sa virginité, c'est une position où elle a la possibilité de faire en sorte que elle maîtrise un peu mieux ce moment où, effectivement, l'hymen va être percé. Je pense pas qu'à ça, mais notamment à ça. Et personnellement, j'en fais pas non plus une position où il y a un renversement de la domination. C'est quelque chose de plus, je dirais, de technique, en fait, entre guillemets, qui devrait faire l'objet d'une information que, effectivement, un symbole, le symbole d'un grand renversement social où la femme aurait une sexualité qui serait assimilée à l'homme. Voilà, c'est simplement ça, en fait.
Allez, il est temps de retrouver les choses presque vues d'Éric Libiot.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Toujours pas psychothérapeute, Éric Libiot. Pas.
Et ça, à mon avis, ça ne prend pas le chemin. J'avoue, Ali, que la question du jour de l'émission m'a surpris. Comment les philosophes peuvent nous apprendre à mieux faire l'amour? Personnellement, je ne me suis jamais, absolument jamais posé cette question, mais c'est peut-être parce que je ne connais pas de philosophe, et même si j'en connaissais, serions-nous suffisamment intimes pour qu'il m'explique la morale de la position du missionnaire, le syllogisme des préliminaires ou la zététique de la jouissance? Alors, pour contourner le problème, la question peut se poser autrement, et vous le faites, hein, comment la philosophie peut nous apprendre à mieux faire l'amour? Ça fait plus conceptuel, sans doute, mais ça reste à portée de main, si je peux dire. Enfin, je dis ça, mais si je m'en tiens à mon cas personnel, ce n'est pas tout à fait ainsi que je verrai les choses. N'ayez pas peur, Ali, je ne vous dirai pas comment je fais l'amour. De toute manière, j'ai oublié. Mais la question qui m'intéresse à mon âge serait plutôt comment faire l'amour pourrait m'apprendre à mieux philosopher. Ça m'aurait bien servi plus jeune, car j'ai eu 5 au bac philo. Alors plus exactement, j'ai eu 2x5 au bac philo, puisque j'ai passé mon bac 2 fois. Et oui, mes années lycée sont finies avec une grosse panne de désir. Alors, 5 au bac, ce n'est évidemment pas terrible. Hein. Je me souviens avoir choisi 2 fois le commentaire de texte parce que je ne pouvais rien faire d'autre. Et me voilà, plus de 40 ans plus tard, à faire du commentaire de sexe. Rien ne se crée, tout se transforme, comme dirait Lavoisier, qui était chimiste, mais aussi philosophe. Alors, en philo, j'ai eu 2 fois le même prof pour les 2 terminales, Monsieur Mailloux. Et je me souviens d'une appréciation sur un de mes bulletins, peut mieux faire, très en deçà de ses capacités. Vu que j'étais plutôt intéressé par jouer au tarot en cours plutôt que de philosopher, j'ai pris cette remarque pour une injonction à mener plus souvent le petit au bout de mes parties de tarot sans beaucoup de rapport avec mes capacités philosophiques. Alors avec le recul et le temps qui passe, Monsieur Mailloux avait peut-être raison. J'ai mieux réussi mes années après le lycée que mes années lycée. Je ne suis toujours pas doué en philosophie, ce qui n'est vraiment pas un handicap a priori, bien que je n'en sache rien en fait. Mais ces mots de M. Mailloux ont peu à peu infusé pour me donner confiance en moi. Cette appréciation, peu mieux faire, très en deçà de ses capacités, était comme des préliminaires à ce que j'allais être finalement. Ça me touche à chaque fois que j'y pense. Jamais mon prof de maths, de physique ou de chimie m'a écrit une chose pareille alors que je les voyais plus souvent puisque je passais un bac scientifique. Il faut donc toujours écouter et croire les philosophes en général et M. Mailloux en particulier. Et je leur remercie aujourd'hui. M. Mailloux évoquait évidemment mes capacités intellectuelles, hein, vous l'aurez compris, ça n'avait rien à voir avec l'amour. Enfin, quoique, peut mieux faire et très en deçà de ses capacités. Je me demande encore aujourd'hui comment M. Mailloux, mon prof de philo, avait réussi à entrevoir ce qu'allait devenir ma vie sexuelle.
Un bel hommage à M. Mailloux. Petite précision, je m'adresse à la professeure de philosophie. Ne jamais prendre le commentaire de texte quand on est nul en philo, Laurence de Villers.
Absolument. Enfin, ne jamais
ouais,
se dire...
Dit, ça.
Non. Se dire que le commentaire de texte, je m'en sortirai parce que c'est plus facile, c'est vraiment l'erreur de débutant. Et pas de redoublant, parce que vous l'avez fait deux fois.
Merci beaucoup, Éric Libaud. Dans un instant, je vous propose de philosopher sur une position transgressive et qui n'est pas destinée à la reproduction. Ce sera juste après avoir écouté Jalen Gonda qui interprète Illusion. Qu'est-ce que c'est bien, Jalen Gonda interprété Illusion.
Qu'est-ce qui se passe, Jean-Jacques? Tu ne te suffis plus comme avant?
Grand bien vous fasse.
Ah non, parce que si ça t'excite de faire ça sur le tapis de tante Violaine, bah tant pis pour la morale, moi je suis pas.
Ali Rébéi.
Non mais Lolo, mais qu'est-ce que tu fais, Lolo?
Non, bah puisque tu es désaxé sexuellement, moi je me soumets.
Mais pourquoi, mais on n'est pas chez nous. Notre amour est bien plus fort que cette sexualité de bas étage.
Sur France Inter.
Qu'est-ce que la philosophie peut nous dire d'intéressant sur la sexualité? C'est notre thème ce matin avec le mensuel Philosophie Magazine.
J'étais avec un garçon. Et il était derrière moi, et tout allait bien, tout était très agréable, très bien réalisé, bravo monsieur, très bien. Et soudainement, mais très très soudainement, hein, ça fait une soudaineté rare dans l'histoire de la soudaineté, vraiment. Hein, je pense que rien n'a jamais été aussi soudain. Enfin bon, le Big Bang peut-être, et encore, le garçon m'encule. Je suis projetée en dehors du lit par la douleur. Comme une grenouille, je suis partie en réflexe, mais bang, comme ça, vraiment. J'étais toute nue, ratatinée, dans un coin de la pièce, sur le plancher, comme un petit rongeur qui va mourir. J'étais comme ça. Et j'ai pas eu le temps de dire au garçon, stop, pousse, attention, tu t'es trompé de trou, non, attention, minute de silence, mon anus est décédé, non, attends, hashtag, je suis mon anus. Le garçon me rattrape par les jambes comme ça, il me tire et il me réencule.
L'humoriste et comédienne Blanche Gardin, Francis Métivier, je rappelle que vous êtes philosophe. La pénétration anale, c'est donc un rapport sexuel qui n'est pas destiné à la reproduction, une sexualité que les religions notamment ont considérée comme anormale et non naturelle. Tout est transgression dans la sodomie, la transgression d'un corps qui s'affranchit de ses obligations sexuelles reproductives.
Oui, on peut dire ça, parce qu'effectivement, non seulement c'est un rapport de pénétration qui n'est pas destiné à la reproduction sexuelle, mais qui en plus utilise un organe qui sert à tout autre chose. Et qui sert à quelque chose qui n'est pas lié à la fécondité ou à la fécondation, quelque chose de plutôt sale. Donc c'est finalement c'est doublement interdit, et c'est doublement que effectivement la sodomie relève d'une transgression de la sodomie. Alors évidemment, Sade lui-même, dans la philosophie dans le boudoir, s'est délecté à dire que c'était que la sodomie était la sensation la plus voluptueuse, parce que justement doublement transgressive. Voilà, enfin ce qu'on peut en dire. Bataille aussi, on avait parlé un petit peu dans l'érotisme, hein, en disant de façon générale que le sexe peut être une activité de gaspillage d'énergie. Et effectivement, on retrouve dans l'idée de la transgression de l'interdit le fait d'une activité sexuelle qui n'est pas utile à la reproduction. Oui.
Alors que peut nous dire une autre position, la levrette, en latin on parlait de coitus maure ferrarum, comme les animaux le font, cela permet de jouer avec son animalité, Francis Métivier. Peut-on dire qu'au moment de la levrette, l'homme défoule une animalité que sa gentillesse a réfrénée?
Je dirais plutôt dans une optique rousseauiste qu'il y a un ressort symbolique.
Dans une optique hétérosexuelle, évidemment.
Oui, dans une optique rousseauiste, c'est plutôt l'idée d'un retour par jeu, hein, peut-être d'un retour à l'état de nature, qui n'est pas une réalité mais une hypothèse. Donc on est vraiment dans le jeu, dans la symbolique. Enfin, ouais, la levrette, c'est comme les animaux, le doggy style. Et effectivement, Rousseau lui-même dit que nous tenons quelque chose de l'animal de par notre nature et notre sensibilité, qu'il y a des sensibilités qui sont communes à l'animal et à l'homme. Et il y a comme ça, chez Rousseau, dans son second discours, un ensemble de rapprochements entre l'homme et l'animal qui peut nous faire déduire qu'effectivement, dans notre inconscient individuel ou collectif, il y a là effectivement un retour symbolique à l'état de nature. Et je fais aussi référence dans le livre que j'ai écrit avec Ovidie à cet épisode de la guerre du feu où effectivement, bon, les hommes prennent les femmes par derrière, passez-moi l'expression. Et puis il y a cet épisode assez tendre où une femme d'une autre tribu qui s'appelle Ika, donc est prise entre guillemets en levrette, et puis elle se contorsionne très doucement, elle se retourne et elle invite Noah à une autre position. Alors je sais pas si le missionnaire est plus civilisé que la levrette, mais il y a peut-être ici un renversement cinématographique, une sorte de passage symbolique de l'état de nature à l'état de culture, quoi.
Alors Laurence Villers, je ne vous interrogerai ni sur la sodomie ni sur la levrette, car vous aimeriez terminer cette émission en évoquant Lucrèce et Ovide. Lucrèce, poète et philosophe du 1er siècle avant notre ère, l'auteur du livre De Rerum Natura, de la nature des choses, et le poète Ovide, à peu près à la même époque, l'auteur des Métamorphoses. En guise de conclusion, Ovide et Lucrèce.
Alors, Lucrèce et Ovidie. Si vous permettez.
Ah, je pensais que vous. Alors, voyez,
je peux dire quelque chose sur Ovide, mais je voulais parler d'Ovide.
Alors, vous avez vu, en vous lisant hier, en lisant votre SMS, j'ai lu Ovide et non pas Ovidie. Ben oui. Vous auriez pu parler d'Ovide.
C'est un biais cognitif. Vous croyez que je parle que de gens intelligents qui sont morts il y a très longtemps. Gens intelligents morts il y a très longtemps.
Et Ovidie
est quelqu'un d'intelligent qui vit maintenant.
Donc, Ovidie.
Je commence par Ovidie. Ouais. Alors, Ovidie, oui, c'est son livre La chair est triste, hélas. Et dès les premières phrases, et je crois que c'est sur la quatrième de couverture, j'ai trouvé qu'il y avait pour moi, ça, c'était une libération. C'est-à-dire, elle racontait toutes les fois où elle a dû consentir, puisque le mot n'est pas si simple, elle a dû consentir à une pratique sexuelle et qu'elle n'en avait pas envie. Et je pense qu'une des formes de libération, peut-être de nos jours, c'est de se dire que s'abstenir de pratiquer la sexualité, c'est aussi une liberté. Lucrèce, à mon avis, défait un malentendu. Le malentendu, c'est de confondre sexualité et amour, et de faire de l'amour une exclusivité. C'est-à-dire, j'aime cette personne-là, et l'amour, c'est avec cette personne-là, et que quand cette personne m'abandonne, c'est l'amour qui meurt. Ben non, Lucrèce dit, consolez-vous avec le premier venu, il appelle ça la Vénus vagabonde, et vous verrez que toute votre souffrance vient du fait que vous croyez que l'amour ne peut naître et mourir qu'avec une personne.
Et on peut lire les Métamorphoses d'Ovide aussi.
Et Métamorphose d'Ovide aussi.
Allez, je ne pouvais pas terminer cette émission sans évoquer l'un de ceux qui m'ont vraiment donné envie de faire ce métier, Bernard Pivot. Comme l'écrit Yves Jéglé dans Le Parisien, il est l'homme qu'on ne veut pas enterrer, celui avec lequel on a grandi, pour beaucoup d'entre nous, l'ami du vendredi soir, ce grand réconciliateur qu'était Bernard Pivot. Bernard Pivot, le présentateur sagace, mythique d'Apostrophe et de Bouillon de Culture, président de l'Académie Goncourt, décédé à l'âge de 89 ans, modèle absolu de ce qu'est le service public quand il traite la culture pour tous, sans abaisser le public, en élevant sans snobisme, avec amour, gourmandise. Écoutons-le dans ce medley réalisé par Claire Destacan pour Grand Bien Vous Fasse en 2018.
Est-ce que pour vous, Vladimir Nabokov, un roman, est-ce que ça n'est pas d'abord une excellente histoire?
C'est ça. Une excellente histoire.
Marguerite Duras, l'amant. Est-ce qu'on peut dire que cet échange de regards va changer votre vie?
Oui. Le livre s'appelait avant... La photographie absolue, c'était celle-là, cet instant-là, du bac. C'est de là que tout est parti.
Votre mot préféré, Woody Allen?
My favorite what? Gee, my favorite word I can't say on television.
Non, ça, je peux pas vous le dire à la télévision.
Ah bon? Mais si, si, dites-le, si, si, au contraire.
Because my mother might be watching.
Parce que ma mère regarde peut-être l'émission. Non, non, ça, je ne peux pas.
Le romanesque.
Alors, Berto Eco, votre mot préféré?
À savoir.
Le son, le bruit que vous aimez?
Le silence.
Votre drogue favorite, Jean d'Ormesson?
La littérature.
Bernard Pivot va poser des questions. Jean-Luc Godard va y répondre.
Mais c'est les écrivains qui sont magnifiques, c'est pas Dieu. Je fais le même métier que vous.
Oui, enfin, oui. J'ai trouvé ce petit texte, page 73, dans L'amour est un chien de l'enfer, où vous dites, c'est sans doute mon enfance... Attendez, je vous lis ces trois lignes. C'est sans doute mon enfance...
Je voudrais qu'on passe à la personne suivante, s'il vous plaît.
Voici... Bukowski dans ses œuvres.
Bukowski, je vais te foutre mon pain dans la gueule.
Enfin, on peut pas écrire un livre comme celui-ci, oui, Patrick Grainville, si vous-même vous n'êtes pas un peu obsédé quand même par le derrière de l'âme.
Obsédé d'amour. Oui. Parce qu'au fond, les fesses, c'est un peu le c'est une sorte d'image du cosmos. C'est un cosmos charnu.
La Terre.
Enfin, c'est la Terre, c'est planétaire. Et puis c'est le grand jardin de la chair.
La vie est ailleurs. C'est un drôle de truc, l'écriture. C'est les livres qui donnent envie d'écrire.
Quel livre?
Livre de classe, même.
Medley signé Claire Destacan, à l'époque où nous avions reçu Bernard Pivot au Salon du Livre en 2018. Éric Ribiot, vous avez bien connu Bernard Pivot. Vous avez travaillé avec sa fille, Cécile Pivot, à laquelle nous adressons nos condoléances, ainsi qu'à l'ensemble de ses proches. Sa mort vous a énormément touché. De réécouter ce medley, vous met les larmes aux yeux. Pourquoi aimiez-vous à ce point Bernard Pivot? Et pourquoi est-il si important dans l'histoire de la culture française contemporaine?
Si j'étais pas doué en philosophie, je l'étais un peu plus en français, et c'est grâce à lui, qui m'a fait découvrir tous ces auteurs. Et puis, Deleuze disait, critiquait un peu Pivot en disant que Pivot faisait du spectacle à la télévision, mais c'est exactement ça, et c'est pour ça que je remercie Pivot d'avoir passé toutes ces années à la télévision, c'est qu'il a redonné du goût à la littérature, mais il l'a désacralisé surtout. Et il n'y a rien de pire que de sacraliser une... lire, le livre n'est pas sacré, le livre est un plaisir, le livre est un spectacle, et puis dans le métier de journaliste et d'intervieweur, il a mis de l'humour. Dieu sait si j'adore ça. Je pense que on peut tout ce qui est drôle est aussi intelligent, et ce qui est sérieux n'est pas forcément et parfois un peu idiot. Donc il a réussi à inverser ses items et c'était un grand monsieur qui a donné du spectacle et du plaisir à beaucoup de gens.
Merci Éric Ribiot pour cet hommage à Bernard Pivot. Merci à toutes et à tous. Merci Francis Métivier, Laurence de Villers et Cédric Angelbert. Le nouveau numéro de Philosophie Magazine, Sexe, où est-ce que ça coince, c'est à lire en kiosque. Et demain, avez-vous eu envie de changer de prénom, notamment parce que vous avez été discriminé par votre ancien prénom? Dites-nous tout sur l'appli France Inter.